Je vais maintenant vous présenter donc Monsieur Haribar. Donc Hervé Haribar est né en 1952. Il est directeur scientifique de Saint-Gobain Recherche. Il est polytechnicien et docteur en physique de l'Université d'Orsay. Concernant sa carrière, donc à partir de 1975, il commence sa carrière comme chercheur en physique des solides à l'École polytechnique et au CNRS. En 82, il se tourne vers la recherche industrielle chez Elf Aquitaine, puis chez Saint-Gobain. De 86 à 98, il est professeur de physique à l'École polytechnique. Et de 90 à 97, il a créé et dirigé le laboratoire mixte CNRS Saint-Gobain. Concernant ses spécialités, donc Hervé Haribar est spécialiste notamment des nanomatériaux. Il a travaillé dans le domaine des capteurs chimiques, puis s'est intéressé aux problèmes d'adhésion des polymères sur le verre et les céramiques, et de manière plus générale, est spécialiste en sciences des surfaces, donc adhésion, surface fonctionnelle, fracture des matériaux fragiles. Par rapport à ses publications, il a publié de nombreux articles spécialisés dans des revues nationales et internationales, et il appartient à une équipe qui construit un site internet sur l'histoire de la recherche sur les matériaux à l'Institut d'Ibner au MIT. Il est lauréat de l'Académie des sciences et membre du Comité national de la recherche scientifique. Donc, Monsieur Haribar, je vais vous céder la parole pendant une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais en fait centrer cette conférence sur une question qui est les nanotechnologies sont lancées, qu'en est-il des matériaux qui doivent aller ou qui vont aller avec ? Et c'est une question effectivement d'importance parce que même si nous sommes dans notre vie de tous les jours entourés par les matériaux au point de ne plus les voir, ces matériaux évoluent au fil de l'histoire et des civilisations. Et on peut d'ailleurs commencer par faire un léger ou court retour en arrière pour se rendre compte qu'à travers les époques historiques, eh bien, l'utilisation des différentes catégories de matériaux, les métaux, les polymères, les céramiques, les matériaux composites, a évolué de façon relativement lente, mais très profonde. Et vous avez sous les yeux cette courbe qui retrace depuis l'ère préhistorique l'usage qui est fait des matériaux. Au début, évidemment, il s'agit de matériaux naturels que l'homme ramasse, trouve dans les arbres. Et puis, on voit, à partir d'une certaine époque, qui est le XVIIIe siècle, une profonde évolution, en particulier le développement des métaux, et quelque chose de beaucoup plus récent que nous avons, pour une grande partie d'entre nous, vécu et qui n'est pas complètement terminé, qui est un retour en arrière des métaux supplantés par des plastiques ou des polymères, mais cette fois-ci artificiels, contrairement aux polymères synthétiques des premiers hommes, des céramiques artificielles, contrairement aux silex que les premiers hommes utilisaient. Alors ces notions sont importantes parce que les matériaux marquent l'évolution des technologies et donc l'évolution des sociétés. On a tous appris à l'école la succession de l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge du fer. Ensuite, on nous a enseigné l'âge de l'acier, et l'âge de l'acier a provoqué, accompagné la révolution industrielle au XIXe siècle. Nous n'avons pas nécessairement tous conscience à quel point, encore une fois, pour ceux d'entre nous qui ont dépassé la trentaine ou la quarantaine, nous avons vécu deux révolutions très importantes au cours du XXe siècle qui sont marquées par les matériaux. La première, c'est l'âge des plastiques, qui, au début des années 50, disons, ont fait leur apparition et se sont mis petit à petit à grignoter le terrain et en particulier à déplacer les métaux de la plupart des applications. Et ce développement des plastiques a vraiment permis la société de consommation qui ne se serait pas développée sans cela, sans la capacité à produire en très grand nombre des produits à bas coût. À produire des matériaux d'emballage, à produire toutes sortes d'instruments que nous avons aujourd'hui autour de nous, peut-être pas tellement dans cet amphi parce qu'il a un certain âge, mais par exemple la caisse de mon ordinateur est faite d'un plastique, en tout cas un plastique renforcé par des fibres de verre. Et puis, deuxième révolution, presque simultanée, celle de la société de l'information. Les ordinateurs, l'Internet, les médias, et tout cela a été possible grâce à un matériau qui est le silicium qui continue à constituer le cœur des microprocesseurs et des systèmes d'information, qui peut-être sera remplacé dans le futur par l'optique, très certainement même, mais nous en sommes seulement au tout début. Donc, face à ces constats, on est tout à fait en droit de se poser cette question, puisque une révolution des nanotechnologies est en cours. Et il y a cette conférence de cycle UTLS, comme cela vient d'être rappelé, consacrée au sujet. Je ne vais évidemment pas pouvoir revenir sur tout cela, mais les nanotechnologies sont en cours. Donc, est-ce que les matériaux sont en train d'évoluer ou vont devoir évoluer pour accompagner le développement de ces nanotechnologies? Et si oui, est-ce que cela va être avec des matériaux nouveaux ou bien en mettant en œuvre différemment des matériaux déjà connus? Donc voici les questions auxquelles je vais essayer partiellement de répondre aujourd'hui, sans perdre de vue toutefois que les matériaux ne sont pas nécessairement, on n'attend pas nécessairement le développement de certains matériaux pour développer des nouvelles technologies. Il faut prendre conscience du fait que les matériaux ont leur propre dynamique, ou en tout cas la recherche en matériaux et la science des matériaux a sa propre dynamique. Et donc, indépendamment même du développement des nanotechnologies, on peut tout à fait se poser cette question, qu'est-ce que les matériaux nous préparent? Et si on ouvre les ouvrages bien documentés, eh bien, on tombe assez vite sur une notion relativement récente qui est celle de matériaux intelligents. Alors, matériaux intelligents, personnellement, je n'aime pas du tout cette appellation. Je la trouve excessive, pour le moins. En quoi consiste le concept qui est derrière? Eh bien, c'est quelque chose qui est illustré sur la figure qui illustre cette tête de chapitre d'un livre consacré au sujet. Et on retrouve un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité marquée par l'évolution et le développement de matériaux les uns après les autres. Nous en sommes aujourd'hui là avec les matériaux synthétiques, c'est-à-dire les plastiques, avec le silicium dont on fait l'ordinateur. Eh bien, vers quoi allons-nous? Voilà cette notion de matériaux intelligents introduite, et on peut, je crois, la rendre un peu concrète en raisonnant de la façon suivante. Encore une fois, à travers le temps, on peut constater que les premiers matériaux qui ont été développés, les premiers matériaux que les hommes ont eu l'idée d'utiliser et puis ensuite de mettre en œuvre par eux-mêmes, ont été des matériaux dits structurels, c'est-à-dire des matériaux faits pour construire une maison, construire un outil, etc. Et on a trouvé évidemment le bois et puis ensuite développé le béton, l'acier, les plastiques qui ont au début été introduits pour ça, pour construire des outils, pour construire des objets. Et ensuite est intervenu, mais des siècles et des siècles plus tard, des millénaires plus tard même, la notion de matériau fonctionnel qui est différente. Un matériau fonctionnel n'est pas là simplement pour construire un objet sur lequel on va poser un autre. Un matériau fonctionnel, c'est pour apporter quelque chose qui va, qui va simplifier la vie des hommes. On trouve à ce titre le verre. Le verre est un matériau magnifique parce qu'on peut boucher les fenêtres sans être victime des courants d'air et on continue à faire entrer la lumière. On a développé le cuivre qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'électricité. Le papier, qui est un matériau fonctionnel par excellence, il est élaboré exactement ce qu'il faut pour être mouillé par l'encre, pas trop pour pas que ça fasse buvard, et suffisamment pour que l'encre reste mouillée le papier. Et là où on commence à avoir cette notion de matériau avec un peu d'intelligence, c'est avec ce que les anglo-saxons appellent matériau smart. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment l'équivalent en français. Un équivalent possible serait matériau actif, mais c'est un mot moins riche. Et on trouve là le silicium dont j'ai déjà parlé. Matériau actif, ça veut dire un matériau qui va pouvoir se présenter sous au moins deux formes différentes. Et donc, on va pouvoir, à volonté, modifier, ou bien qui va pouvoir lui-même se modifier sous l'action d'un stimulus extérieur. Donc le silicium, j'en ai déjà parlé. Les cristaux liquides que nous avons appris à bien connaître avec l'affichage, les montres, les écrans d'ordinateur. Les piézoélectriques qui sont des matériaux céramiques qui manifeste cette propriété que quand on appuie dessus, eh bien, il développe à l'extrémité du petit bout de solide une différence de potentiel qui peut être utilisée pour allumer une étincelle qui elle-même allume le gaz d'un briquet, par exemple. Ou inversement, si on applique une différence de potentiel aux deux extrémités d'un cristal piézoélectrique, eh bien, il va manifester un déplacement mécanique, ce qui est une faculté qui est aujourd'hui beaucoup utilisée pour la nanomécanique et la micromécanique. Mais nous ne sommes pas vraiment à la notion de matériaux intelligents. En fait, la notion de matériaux intelligents vient de cette constatation que, à la fois, on trouve et on a su inventer de plus en plus de matériaux fonctionnels présentant de plus en plus de fonctions différentes, mais en même temps que les frontières deviennent floues entre les différentes catégories. À titre d'exemple, ces matériaux plastiques, eh bien, ils ont été introduits, je l'ai dit, comme matériaux structurels pour construire, et on commence à les voir se développer sur des terrains qui sont vraiment de nature fonctionnelle par excellence, comme ces polymères électroluminescents qui émettent de la lumière sous l'action d'un courant électrique. Inversement, certains matériaux conçus, développés au début pour être fonctionnels, reprenons l'exemple de silicium, et on a ici une photographie de ce qu'on appelle un wafer de silicium, qui est la base de tout dans l'industrie de l'électronique, qui va servir à fabriquer les chips, les puces qu'on trouve dans les ordinateurs. Eh bien, d'une façon assez amusante, ce silicium, on lui a découvert plus récemment des nouvelles vertus, puisqu'on sait maintenant construire avec du silicium. Alors, on sait construire à petite échelle, mais ont été développées et commencent à être utilisées des technologies de construction d'engrenages, de ponts, pour de la fluidique, de micro-réacteurs chimiques qui sont faits avec des cuves en silicium, avec des tuyaux en silicium, avec des engrenages en silicium, et tout ça sur une puce d'un centimètre carré. Donc, la leçon, c'est que finalement, toutes les frontières, les classifications qu'on essaierait aujourd'hui de construire, eh bien, tombent. Et c'est finalement, je pense, cela la meilleure notion ou définition de matériau intelligent, c'est, ou plus précisément, ce serait un matériau qui serait à la fois structurel, à la fois fonctionnel, qui serait actif, qui même serait communicatif. Et évidemment, ce matériau-là, aujourd'hui, n'existe pas. On le saurait s'il existait. Et c'est la principale raison pour laquelle, personnellement, je n'aime pas cette appellation. Néanmoins, l'idée est là, et l'évolution des matériaux, elle est dans ce sens-là. Elle est dans ce sens-là, mais avec cette principale difficulté que de la matière structurelle, on en connaît, de la matière fonctionnelle, on en connaît, de la matière active, on en connaît, de la matière communicative, on en connaît. Et simplement, il faut intégrer tout cela dans le même élément de matière qu'on pourra appeler un matériau véritablement intelligent. Donc, cette notion d'intégration qui nécessairement nous pousse vers les petites échelles, par définition, est un point d'entrée très important pour ce qu'on peut appeler les nanomatériaux. Des matériaux véritablement intelligents, je l'ai dit, je n'ai pas d'exemple à vous présenter. J'ai par contre des faux exemples de matériaux intelligents. En voici un qu'on pourrait appeler matériaux réflexes, par analogue avec ce qu'est un réflexe chez un individu, c'est-à-dire une relation entre un stimulus et puis une action qui est déclenchée, donc entre un capteur et puis un actuateur qui est déclenché. Par exemple, ça peut être ma main qui se met devant le spot lumineux en réponse à l'information donnée par mon œil, le capteur, à mon muscle pour protéger de la lumière. C'est un réflexe, ça ne passe pas par mon cerveau, donc il n'y a pas là la notion véritablement d'intelligence, de processabilité qui soit intégrée dans le matériau. Voici un matériau ou un faux matériau intelligent, parce qu'il est souvent présenté comme un matériau intelligent. Il ne l'est pas du tout. Il n'est, n'empêche, très sophistiqué. C'est ce qu'on appelle les verres électrochromes. Les verres électrochromes sont en fait des vitrages qui peuvent posséder deux états différents, un état complètement transparent et un état complètement opaque. On en a ici des exemples avec cette verrière qui est pavée de vitrages. Les uns sont dans l'état transparent, les autres sont dans l'état opaque. On a ici une fenêtre munie de ces vitrages. Et cela fonctionne avec une batterie. C'est en fait une batterie électrochimique, comme une batterie de voiture, mais qui est déposée sous forme de couche mince, et je viendrai souvent à cette notion de couche mince, sur des vitrages. Donc une fois, ou si un jour, on a été capable d'intégrer en un seul matériau les différentes couches qui sont représentées ici, et que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui en gros sont des électrodes et des électrolytes, si un jour on est capable d'intégrer cela en un seul matériau, si en plus on est capable d'intégrer dans ce matériau-là ce qui serait l'équivalent de la cellule solaire qui détecte s'il y a de la lumière ou pas et qui du coup envoie l'information pour savoir si on doit laisser la lumière entrer ou pas dans la fenêtre. Si en plus de ça on est capable d'intégrer dans ce même revêtement à la surface du verre la petite puce électronique qui est capable de prendre la décision, ce jour-là on aura gagné et on pourra parler de matériaux intelligents. Mais encore une fois, nécessairement, ça passe vers les petites échelles parce qu'il s'agit bien dans un volume de quelques microns carrés d'avoir toutes ces fonctions. Donc cette entrée est certainement l'entrée privilégiée dans le monde des nanomatériaux. Néanmoins, il ne faut pas oublier trois autres entrées. En fait, je pense qu'on peut identifier trois moteurs pour le développement d'une science des matériaux à l'échelle nanométrique, qui est déjà lancée. La première, c'est pour répondre aux besoins des nanotechnologies, déjà évoquées. La deuxième, c'est parce que l'intégration est l'une des dynamiques actuelles propres à la science des matériaux, c'est la notion d'intégration dont je viens de parler. Et la troisième, qu'il ne faut certainement pas oublier, c'est que la physique, aujourd'hui, fournit un cadre conceptuel complet pour comprendre, expliquer toutes les propriétés des solides. Et qu'à partir de cette faculté, de cette capacité à comprendre toutes les propriétés des solides, eh bien, on peut, par la pensée, inventer des nouvelles propriétés, des nouveaux matériaux à partir de ces concepts-là, et si cela donne des résultats intéressants, eh bien, passer à un autre programme qui est celui de l'élaboration des matériaux. Donc je vais faire, dans les 20 minutes qui suivent, je vais passer en revue ces trois moteurs en donnant des exemples, et en commençant par la fin, parce que finalement c'est peut-être cela qui a joué le rôle le plus important au début, c'est-à-dire il y a 10 ans ou 15 ans, quand on a vraiment commencé à parler de nanomatériaux. Et tout ça dans un contexte où le matériau seul, c'est-à-dire le bout de matière seul, n'a pas de sens, mais où on est toujours confronté à un tétraèdre où on trouve la composition chimique du solide en question, sa structure, l'arrangement des atomes, des molécules, le procédé qui sert à le mettre en œuvre et à en faire un produit industriel, et tout ça pour obtenir un certain nombre de propriétés. Et à partir de ces propriétés, évidemment, on développe l'application. Alors, commençons donc ce programme par quelques exemples de propriétés spécifiques des solides nanostructurés. J'ai écrit ici solide, pas matériaux encore, parce que je parle seulement de propriétés. Un matériau, c'est un solide qui sert à quelque chose. Et pour le moment, je me contente simplement de ses propriétés. Et je vais adopter cette définition, si vous le voulez bien, de l'échelle nanométrique dans le domaine des matériaux. Eh bien, c'est une échelle où le solide n'est pas homogène, donc présente des hétérogénéités à des échelles comprises entre 1 et 100 nanomètres. Au-dessous d'un nanomètre, on serait à l'échelle de l'angstrom, c'est-à-dire à l'échelle de la taille des atomes, et ça n'aurait évidemment pas de sens. Le sel de cuisine, un ACL, on ne peut pas accepter d'en faire un nanomatériau sous prétexte qu'il y a ici un atome de sodium, et puis 3 angstroms plus loin, ou 2 angstroms plus loin, un atome de chlore. Donc il faut nécessairement être au-dessus des dimensions atomiques. Et puis, au-delà de 100 nanomètres, eh bien, on entre dans les décades consacrées aux microns, aux micromètres, et à ce moment-là, ce n'est plus de la nanotechnologie, c'est de la microtechnologie. Je parlais de propriétés des solides et de développement de la physique des solides. J'ai tenté ici d'établir une liste d'un certain nombre de propriété que possèdent les solides. Elle n'est pas exhaustive, il y a les propriétés optiques, les propriétés électriques, magnétiques, mécaniques, les propriétés de réactivité chimique qui sont très importantes dans le domaine de la catalyse, par exemple. Et il est assez intéressant de constater, mais en même temps un petit peu frustrant à la fin parce que ça ne marche pas pour les deux dernières propriétés, que la physique nous dit qu'il existe des dimensions caractéristiques en dessous desquelles on peut s'attendre à ce que la propriété en question change. J'en donnerai quelques exemples, et je donnerai en particulier des exemples qui ressortent de l'optique et du domaine de la mécanique et de la réactivité chimique. Dans le domaine de l'optique, il y a une longueur, une dimension tout à fait naturelle, qui est la longueur d'onde de la lumière. L'optique visible, disons celle à laquelle nous sommes sensibles par nos yeux, correspond à des longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nanomètres, en gros. Autrement dit, si un matériau optique est hétérogène à une échelle qui va devenir inférieure à quelques centaines de nanomètres, à la longueur d'onde de la lumière, il va peut-être se passer quelque chose. Et effectivement, je vais vous montrer des exemples où il se passe quelque chose. On a une théorie pour prendre cela en compte. On parle de milieu effectif pour dire que quand ce matériau que j'ai idéalisé ici avec des particules d'un certain indice N1 et puis la partie imaginaire K1 dans une matrice qui est un solide d'indice N2, partie imaginaire IK2, eh bien, si la dimension de ces particules est plus petite que la longueur d'onde de la lumière, l'ensemble se comporte optiquement, c'est-à-dire si on le regarde, si on fait une expérience d'optique au travers, comme un matériau homogène d'un troisième indice, N3 plus K3. Et les règles pour calculer N3 et K3 à partir de N2, K2, N1, K1 sont connues. Ça marche. C'est la théorie du milieu effectif. Et un exemple très simple et dont l'application parle à tout le monde, eh bien, c'est si on veut faire un vitrage anti-reflet, par exemple. On peut être gêné quand on va visiter la Joconde au Louvre, pas par les reflets qui sont très nombreux sur ce verre qui sert à la protéger. Vous savez que ces reflets viennent de la réflexion de la lumière sur les deux faces de verre, l'interface entre le verre et l'air, tout simplement parce que le verre a un indice de 1,5 alors que l'air a un indice de 1. Et les lois de Descartes nous disent que dans ces cas-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait 4% de réflexion sur chaque face. Si la différence d'indice était plus faible, c'est-à-dire si le verre avait un indice de 1,2 par exemple, eh bien, le coefficient de réflexion tomberait à 1,5% à peu près. C'est-à-dire que ça changerait vraiment beaucoup les choses. Autrement dit, si on est capable de concevoir un matériau d'indice 1,2, d'en enduire la plaque de verre qui protège la Joconde, eh bien, on en verra beaucoup mieux. Et il se trouve qu'aucun matériau homogène, massif, n'a d'indice aussi bas. On ne connaît pas de solide d'indice optique inférieur à, disons, 1,4. Mais si l'on retient la leçon de la vue précédente, eh bien, on se dit il n'y a qu'à élaborer, texturer un solide qui sera en partie du verre indice 1,5, en partie de l'air indice 1, et pourvu que les dimensions caractéristiques soient plus petites que la longueur de la lumière, ce solide-là se comportera comme s'il avait un indice moyen 1,25. Et c'est effectivement ce qui se passe quand on réalise ce qui peut se faire par différentes technologies. Ce type de revêtement sur le verre, ça se présente un peu comme un œil de mouche. Vous voyez, il y a ces texturés, il y a des creux et il y a des bosses. Les bosses, c'est du solide, c'est un indice de 1,5. Les creux, c'est de l'air, c'est un indice de 1. C'est à une échelle de 300 nanomètres, donc on est bien en deçà de la longueur d'onde de la lumière. Et ça marche très bien, comme vous pouvez le voir, sur ces deux clichés qui comparent une vue de l'intérieur d'un bâtiment. Et dans ce cas-là, où il n'y a pas le revêtement, eh bien, on a en réflexion l'immeuble qui est derrière le dos, alors qu'ici, équipé de ce genre de revêtement, eh bien, on a cet effet anti-reflet. Un autre cas, j'ai volontairement choisi des exemples très simples de la vie de tous les jours, et en plus sur des matériaux que je connais bien. C'est ici le verre rouge, faire du vert rouge, un joli rouge, ce n'est pas si facile que ça. On sait le faire en mettant à profit les propriétés de surface de toutes petites particules métalliques, en particulier du cuivre. Et par un phénomène qu'il est un peu trop long d'expliquer ici, les électrons qui sont à la surface de cette particule de cuivre entrent dans un mode de vibration collectif à une longueur d'onde qui correspond justement à l'absorption des couleurs complémentaires du rouge. Et le résultat, c'est que ceci a tendance à être rouge. Plonger ces nanoparticules dans une matrice qui est du verre, cette fois-ci, transparent. Il s'agit de cuivre. Ça marche également avec l'or. Quand on pense à de l'or, quand on pense à du cuivre, on ne pense jamais à un matériau transparent et rouge. On pense toujours à une surface réfléchissante, un peu cuivrée, un peu dorée, justement. Mais parce qu'ici, on est sublongueur d'onde, eh bien cet effet de moyenne dont je parlais tout à l'heure joue pleinement et on n'a plus aucune des propriétés optiques caractéristiques d'un métal. Le matériau se comporte comme s'il était un verre de couleur rouge. Et il n'y a dedans absolument aucun pigment, aucune transition électronique qui soit l'explication de ce phénomène. C'est quelque chose d'un tout autre ordre. Donc voici cette première dimension caractéristique, la longueur d'onde de la lumière. Il y en a une autre, pour rester dans le même domaine, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur de peau en électromagnétisme. C'est-à-dire que, quelles que soient les ondes auxquelles on s'intéresse, que ce soit les ondes lumineuses, le visible ou les ondes électromagnétiques, les ondes hyperfréquences, certains matériaux les réfléchissent, c'est en général une caractéristique des métaux. Ceci dit, la mécanique quantique nous apprend que l'onde qui se réfléchit sur la surface en question va quand même pénétrer un petit peu sous la surface. C'est pour ça qu'on appelle ceci l'effet de peau. Ça pénètre dans la peau du matériau et ça devient une petite onde évanescente qui visite le temps d'un aller-retour l'intérieur de cette matière juste sous la surface et revient en arrière. Comprenant ça, et comprenant ou ayant en tête les ordres de grandeur de cet effet de peau, et l'ordre de grandeur de l'effet de peau pour un métal normal dans le domaine spectral du visible, c'est quelques nanomètres, une dizaine de nanomètres, on se dit, mais du coup, si je suis capable de fabriquer une feuille métallique d'épaisseur plus fine que cette épaisseur de peau, eh bien, le métal ne va plus être réfléchissant. Il va devenir petit à petit transparent, et plus il sera fin, plus il sera transparent. Et c'est effectivement ce qui se passe. Ici, c'est représenté dans le cas de l'argent, mais ça marche très bien avec les autres métaux. Et c'est exactement ce phénomène qui est utilisé dans ces vitrages qu'on voit se répandre de plus en plus, qui équipent déjà tous les immeubles de bureaux, et qui sont conçus pour être presque complètement transparents dans le visible, mais également pour réfléchir presque complètement, si possible, l'infrarouge du soleil, de façon à ce que le rayonnement infrarouge du spectre solaire ne contribue pas à échauffer encore davantage l'intérieur du bâtiment quand on est en été, qu'il y a beaucoup de soleil à l'heure de midi. On joue sur le fait que cette épaisseur de peau est un peu plus grande dans l'infrarouge que dans le visible pour ajuster exactement l'épaisseur de cette couche d'argent qu'on sait déposer de façon très bien maîtrisée à la surface de verre, de façon à ce qu'elle soit inférieure à la longueur d'onde, pardon, inférieure à l'épaisseur de peau de l'argent dans le visible, et donc du coup la lumière visible passe au travers, au moins en partie, et par contre plus grande que l'épaisseur de peau dans l'infrarouge, et l'infrarouge solaire est lui bien réfléchi. Troisième exemple de dimension caractéristique, cette fois-ci encore dans le domaine de l'optique, spécifique des semi-conducteurs, cette fois-ci. Dans les semi-conducteurs qui sont des solides, où on est capable de séparer deux types de charges, les charges dites traditionnelles, les électrons, et puis leurs complémentaires qui sont appelés des trous et qui sont chargés positivement. Eh bien, dans un semi-conducteur, vous avez en présence ces deux types de charges, positives et négatives, et dans certaines circonstances, comme le fait l'électron chargé négativement autour du proton chargé plus de l'atome d'hydrogène, eh bien, ils se mettent à graviter l'un autour de l'autre. Ça fait un système qu'on appelle hydrogénoïde. Ce système possède des transitions lumineuses et en particulier, il conditionne le seuil d'absorption optique d'un certain nombre de semi-conducteurs. Et on l'appelle un exciton. Donc l'exciton, c'est ce système hydrogénoïde composé d'un électron et d'un trou. Et encore une fois, son énergie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'un gravite autour de l'autre, conditionne l'absorption de la lumière et le seuil de cette absorption, c'est-à-dire in fine la couleur du solide. Eh bien, la dimension de ce petit système planétaire, il est de l'ordre de 10-12 nanomètres dans le cas d'un semi-conducteur particulier qui s'appelle le sélénure de cadmium, dont je vais parler tout de suite. Eh bien, on prend conscience, évidemment, tout de suite, de ce que si ce rayon de bord effectif, il est appelé rayon de bord par analogie avec le vrai rayon de bord de l'atome d'hydrogène, devient plus grand que la taille de la particule, ou plus précisément, si la taille de la particule dans laquelle se trouve cette paire électron-trou devient plus petite que le rayon de bord effectif, eh bien, ce petit système planétaire va se trouver confiné. Et étant confiné, il gagne en énergie, son énergie augmente, et du coup, le seuil d'absorption dans le visible va changer, et la couleur du matériau va changer. C'est exactement ce qui se passe avec ces poudres de sélénure de cadmium. C'est exactement le même solide. La composition du jaune, du rouge, de l'orange est exactement la même. Un atome de cadmium pour un atome de sélénium. Il n'y a aucune impureté pour donner la couleur. Le changement de couleur vient simplement de cet effet de nature quantique dû à la dimension différente des tailles des particules, des petits grains de poudre que vous avez sous les yeux. Donc ces effets nanométriques, pour en être nano, n'en sont pas moins spectaculaires. Je prends maintenant le cas de la mécanique. Alors, dans le cas de la mécanique fait partie de ces deux dernières lignes qui n'étaient pas écrites de la même couleur, et pour lesquelles, assez rapidement, on prend conscience qu'il n'y a pas justement cette notion assez confortable, finalement, de dimension caractéristique bien établie par les lois de la physique. En fait, on prend conscience, et peut-être la meilleure façon d'en prendre conscience, c'est d'observer les matériaux naturels, que dans le domaine de la mécanique, toutes les dimensions sont bonnes à prendre pour conditionner les propriétés mécaniques d'un matériau, d'un arbre ou la coquille de cette conque, qui est une conque géante qui peut atteindre 80 cm de haut, qui s'appelle Strombus gigas, qui est extrêmement difficile à casser. Alors, si néanmoins on la casse et qu'on essaie de comprendre pourquoi elle est aussi résistante, eh bien, on fait à ce moment-là des observations avec un microscope optique pour commencer, parce qu'on est à l'échelle de la centaine de microns, et puis de plus en plus petit, 10 fois plus petit, 10 fois plus petit encore, et encore 10 fois plus petit, on tombe dans le domaine nanométrique. Eh bien, on voit pratiquement la même chose à toutes ces échelles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des espèces de plaques dont on sent très bien qu'elles ne vont certainement pas faciliter la traversée d'une fissure. Et finalement, si les fissures sont tellement faciles, s'il est tellement difficile de casser ce solide, c'est parce que les fissures ont beaucoup de mal à s'y propager, pour cette raison qu'il leur faut contourner des grands obstacles, eux-mêmes constitués de moyens obstacles, eux-mêmes constitués de petits obstacles, et si bien que ça leur coûte une énergie énorme que finalement on est incapable, avec la force de ses seules mains, d'appliquer au solide. Donc la recette de ce matériau naturel, elle est dans le multi-échelle. Et si, en face de cela, on compare un composite industriel, donc artificiel, on trouve dans un matériau composite cette même idée d'interface qui est développée justement pour arrêter les fissures, eh bien, on est profondément frustré par rapport au cas précédent. Parce que nos composites, celui dont est fait le boîtier de mon ordinateur ou les carrosseries de certaines voitures, c'est très pauvre, c'est ça. C'est, encore une fois, on a ici un faciès de rupture. Il y a une seule échelle, c'est le diamètre de ces fibres. Ça peut être des fibres de verre, ça peut être des fibres de carbone. Et ce sont ces fibres-là, de 10 microns de diamètre, c'est en gros les dimensions, qui font tout le travail. Et on arrive à se dire, on est amené à se dire qu'on pourrait peut-être être aussi malin que la nature et avoir des concepts de renforcement qui, eux aussi, soient multi-échelles. Et si on est capable de disperser ces fibres de 10 microns de diamètre dans un polymère pour le renforcer. Pourquoi pas essayer de disperser en plus, ou à la place, mais enfin disons en plus, pour avoir le côté multi-échelle, des fibres de dimension moyennement plus petite et puis beaucoup plus petite. Et ça, c'est une démarche qui est en cours, en particulier en utilisant les nanotubes de carbone, dont je crois Annick Loiseau a parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et d'utiliser ces nanotubes de carbone comme des renforts, en les considérant finalement comme des nanofibres de carbone, au même titre que les fibres de carbone ordinaires. Dimension, quelques nanomètres de diamètre. On peut avoir de l'imagination et se dire, après tout, il n'y a pas que des fibres qui développent beaucoup de surface, il y a aussi des plaquettes. Et ça, c'est toute une démarche, je pense qu'Henri Vandamme, fin décembre, en avait parlé, qui consiste à exfolier l'argile naturelle. L'argile est un minéral composé de nanoplaquettes, en fait, qui en général restent solidaires les unes des autres, mais on a inventé la chimie qui permet de les désolidariser et du coup de rendre compatibles avec un polymère, de disperser dans un polymère ces nanoplaquettes d'argile qui font un nanomètre d'épaisseur. Et du coup, avec une petite particule, on a créé beaucoup d'interfaces, et c'est l'interface qui fait le travail de renforcement mécanique. Dans le domaine de la réactivité chimique des solides, qui se fait évidemment par la surface, eh bien voici un autre exemple, qui est celui des vitrages auto-nettoyants. Un vitrage auto-nettoyant, ça fonctionne avec des nanoparticules d'oxyde de titane. Il se trouve que ce matériau a des propriétés photocatalytiques extraordinaires. Si une molécule organique se dépose à la surface de l'oxyde de titane, et si quelques photons dans l'ultraviolet éclairent cette surface, eh bien, la particule organique se trouve décomposée. Donc les huiles, les graisses, etc., se décomposent à la surface de l'oxyde de titane, pourvu qu'il y ait suffisamment d'ultraviolet, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup. Plus, encore une fois, il y a de surface, plus ça va être efficace. Et pour jouer à fond sur ce phénomène, eh bien, on dépose, ce sont encore des prototypes de laboratoire, sur la surface du verre, ces nanoparticules qui n'affectent pas du tout la transparence, et qui permettent gentiment, simplement avec les rayons de la lumière naturelle, de digérer les salissures au fur et à mesure qu'elles se développent. Et à nouveau, vous le voyez, pour avoir beaucoup de surface, eh bien, on prend des toutes petites particules, 20 nanomètres typiquement. Mon deuxième point, celui sur lequel je voudrais là aussi donner quelques exemples, c'est un premier pas vers les matériaux intégrés. Pour faire jouer à plein cette idée d'intégrer dans un même élément minuscule de matière des propriétés différentes, eh bien, il y a une idée parmi d'autres, mais une idée qui est en plein développement aujourd'hui, qui est celle de matériaux hybrides. C'est-à-dire d'un matériau qui soit ni complètement minéral, comme l'est la pierre, ni complètement organique, comme l'est le bois, mais qui soit composé de molécules organiques intimement mélangées avec des atomes minéraux. Pourquoi ça ? Eh bien parce que certaines propriétés sont vraiment spécifiques de la matière organique, de même que certaines sont vraiment spécifiques de la matière minérale. C'est en particulier le cas d'une notion qui est importante dans la vie de tous les jours, qui est l'hydrophilie ou l'hydrophobie, c'est-à-dire le fait pour un solide de bien aimer l'eau et d'être volontiers mouillé par l'eau. Si on y dépose une goutte d'eau, elle va s'étendre. Et pour d'autres, d'être hydrophobe, au contraire. C'est-à-dire que si on pose une goutte d'eau, eh bien, la goutte d'eau a tendance à se recroqueviller sur ce qu'elle est en tant que goutte d'eau, c'est-à-dire une goutte. Et ça, seule la matière organique possède la possibilité de jouer avec beaucoup de contraste sur cette propriété. Et c'est quelque chose que l'on peut mettre à profit si l'on souhaite avoir une surface, quelle que soit la nature de l'objet en question. Prenons un verre, puisque je suis parti dans les vitrages. Si on veut le rendre hydrophobe, et on va voir à quoi ça peut servir, un verre hydrophobe, eh bien, on va avoir tendance à greffer dessus des petites molécules, des petites architectures qui font 15 angstroms, c'est-à-dire 1,5 nanomètre de hauteur, qui sont très hydrophobes. Et elles sont très hydrophobes parce qu'elles sont à leur extrémité, elles possèdent un groupement CF3, qui est ce qui existe de plus hydrophobe. Et on a là un phénomène, on a la chance d'avoir un phénomène qui est un phénomène d'auto-assemblage. C'est-à-dire que spontanément, Ces molécules qu'on voit ici s'approchent de la surface en question, viennent s'y greffer, et puis elles viennent s'empiler les unes auprès des autres, au contact direct. Pour ça, il y a des interactions à la fois chimiques à la base, et puis des interactions de physique de Van der Waals, qui jouent sur cette partie longue et peu polaire des molécules. Et donc ça vient se tasser comme des sardines dans une boîte d'huile, finalement, et ça vient former une nanobâche de dimension justement nanométrique, 15 angstroms d'épaisseur, mais qui recouvre parfaitement toute la surface. Et sur une surface comme ça, si on dépose une goutte d'eau, eh bien, on constate que la goutte d'eau ne se mouille pas beaucoup, ne mouille pas beaucoup la surface. Alors, le paramètre qui est utilisé pour mesurer la mouillabilité par l'eau d'une surface, c'est l'angle de contact. Il est défini par l'angle entre la tangente de la forme de la goutte et puis le solide sur lequel la goutte est posée. Et vous voyez sur ce tableau que parmi toutes les fonctions, toutes n'y sont pas, il y a une sélection de fonctions chimiques, eh bien, c'est bien CF3, un carbone, 3 fluor, qui a la plus petite énergie de surface, et ça c'est directement lié à un angle de contact par l'eau le plus grand possible, qui est de 125 degrés. Et si l'angle de contact est de 125 degrés, eh bien, on commence à avoir un effet assez spectaculaire, qui peut-être n'est pas très bien rendu sur la partie de gauche de ce cliché. On voit simplement quelques gouttes qui restent quand même accrochées sur une surface qui a été traitée de la sorte, alors que sur une surface qui est sans traitement, il y a des gouttes d'eau de façon aléatoire. Mais visuellement, à droite, ça paraît beaucoup mieux. C'est-à-dire, imaginez un pare-brise qui soit traité sur une partie, sur la moitié gauche et pas sur la moitié droite, et que vous roulez sous la pluie, eh bien, vous aurez ça. C'est-à-dire qu'à gauche, vous continuerez à voir imparfaitement encore, alors qu'à droite, vraiment, on n'y voit plus du tout. Et c'est évidemment très accentué la nuit à cause de la diffusion des lumières, des véhicules qui arrivent en face par les gouttes d'eau. Donc c'est un premier exemple où sur ce verre minéral, on a greffé de l'organique pour obtenir une propriété bien spécifique. On peut maintenant jouer beaucoup avec ça et on peut vraiment combiner d'une façon qui devient de plus en plus maîtrisée. Je ne vais pas avoir le temps de montrer tous les exemples que j'ai prévus, mais de finalement sélectionner le meilleur de ces deux mondes et de le mettre dans le même matériau. C'est une façon d'avoir des colorants qui tiennent aux très hautes températures, comme par exemple pour colorer ces ampoules de puissance pour l'optique. C'est par exemple une façon de mimer la photosynthèse des plantes par de la photosynthèse artificielle en utilisant des molécules organiques qui sont greffées sur ce même TiO2 dont je parlais tout à l'heure. Enfin, j'en arrive au troisième point que je souhaitais développer un petit peu, qui sont... essayer de répondre à cette question. J'ai parlé de l'évolution, disons, naturelle des matériaux, mue par la propre logique de la science des matériaux. Il ne faut pas oublier l'autre volet de ce que je souhaitais présenter, c'est-à-dire quels nouveaux matériaux, quels nouveaux procédés les nanotechnologies vont-elles demander. Alors, on peut avoir deux idées. On peut avoir cette première idée qui est de faire ce qu'on appelle du top-down. Top-down, ça veut dire à partir du gros, on va vers le petit. C'est le sculpteur qui choisit un bloc de granit et puis qui, au bout du compte, a ciselé tous les détails qu'il souhaitait reproduire. C'est exactement de cette façon-là qu'on procède aujourd'hui en microélectronique. C'est-à-dire on part d'un gros lingot de silicium dont on découpe les tranches, ce qu'on appelle les wafers, dont j'ai montré une photo au début. Et tout ça, c'est encore à grande échelle. Et puis, petit à petit, par la photolithographie, par des techniques d'attaque ionique, d'usinage chimique, on creuse des trous, on dépose des couches, on soulève, on remplit, on enlève, on sculpte le silicium. Et ça peut donner de très jolis objets comme ceux-là, qui est tout simplement une plaque très, très, très mince, extrêmement mince, 100 nanomètres peut-être d'épaisseur, de silicium, qui est juste retenu par les 4 fils toujours de silicium, tout ça c'était le même morceau de silicium au début, au-dessous d'un gigantesque fossé qui lui-même a été creusé, mais par-dessous cette plaque, sans qu'on ait eu besoin de démonter et puis de remettre des nanovis après, ça s'est fait par des technologies qui existent. Ça c'est le top-down. Et on peut se dire, par construction, ce truc-là, c'est du gaspillage. On prend quelque chose de gros et puis on enlève des tas de matières inutiles et on la perd. On peut choisir l'inverse, c'est-à-dire, ben, puisqu'on peut pas faire, puisque, disons, pour faire mieux que du top-down, faisons du bottom-up. Bottom-up, c'est complètement l'inverse. On prend une boîte à outils ou un atelier avec plein de tiroirs. Dans chacun de ces tiroirs, il y a des atomes, il y a du chlore, de l'oxygène, etc. Et puis, à partir de ça, on les déplace les uns par rapport aux autres. Et puis, on fabrique un objet petit, puis de plus en plus grand. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup la faveur d'un certain nombre de spécialistes des nanotechnologies. Il a été question de cela également dans des conférences de cette série. Et des réalisations sont en cours. Évidemment très modestes au début, mais on commence à réfléchir sérieusement à des engrenages moléculaires comme ça. Vous voyez ces molécules, eh bien, on était capable de les construire, par exemple en les prélevant avec la pointe d'un microscope à la force atomique, en la plaçant au bon endroit, pour bâtir comme un nano-jeu de Lego, un nano-jeu de construction, ces engrenages. Et puis les engrenages, on a mis côte à côte et on va construire comme ça un système. C'est évidemment extrêmement élégant. On mesure, je crois, néanmoins, le chemin qu'il nous reste à parcourir pour avoir des objets qui fonctionnent et des systèmes qui fonctionnent comme ça. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais il y a des problèmes de logistique quand même assez cotons. Et en plus de ça, surtout quand on pense à l'électronique, des tas d'autres difficultés qui jusqu'à présent n'ont pas été du tout prises en compte, du genre, mais comment est-ce qu'on prend des contacts, comment est-ce qu'on fait une soudure sur un système comme ça. On en est au tout début. Il y a peut-être plus astucieux, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est sans doute astucieux, c'est la notion d'auto-organisation. C'est-à-dire, je prends le parti pris d'être paresseux, et j'espère que ma matière va s'organiser toute seule, que mes atomes vont tout seuls se mettre sous la forme que je souhaite. Alors, ça pourrait être une idée complètement farfelue si ce n'était pas justement de cette façon-là que les matériaux naturels s'élaboraient, se fabriquaient. J'aurais pu prendre de multiples exemples. Prenons le bois. Le bois, c'est un matériau complètement organique. Il est fait à la base, à partir de ces molécules, ces petits fils ici, qui sont des fibres, des filaments, des molécules de cellulose. Ces molécules de cellulose s'entortillent suivant des doubles hélices. Et puis, ensuite, elles s'organisent à toutes les échelles. Les petites hélices s'enroulent elles-mêmes les unes autour des autres. Tout ça, ça forme un faisceau de fibres qui s'empilent, suivant des géométries qui peuvent être diverses ou variées. Et puis ensuite, à l'échelle, on est arrivé ici au micron, ça forme des cellules en s'organisant sous forme d'hexagone, comme ça. Et puis, au bout du compte, on a un arbre. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes les espèces végétales sont constituées à partir de ces mêmes molécules de base. Et tout ça, pourtant, grâce à ce jeu d'organisation à toutes ces échelles, qui fournit des possibilités de diversité quasiment infinie pour arriver aussi bien aux chênes qu'aux roseaux, parce que la pression de sélection a fait que les propriétés mécaniques du chêne sont utiles dans telles conditions et les propriétés de flexibilité du roseau sont utiles dans telles autres conditions. C'est le nom de cette chaîne d'auto-organisation que tout se joue. L'os, exactement pareil. Les ingrédients de base ne sont pas les mêmes. Là, on parle de molécules qui sont des chaînes de collagène, qui forment des triples hélices, une petite nuance par rapport à la cellulose. Et puis, même principe, s'organise en fibrilles, qui elles-mêmes forment des fibres, qui forment des faisceaux, etc. Il y a cette particularité de l'os par rapport au bois, de la biominéralisation, c'est-à-dire que des particules inorganiques, minérales, cette fois-ci d'hydroxyapatite, croissent, se développent dans ce milieu, c'est elle qui confère la rigidité aux os. L'os est un matériau fabuleux, il doit à la fois être très flexible et en même temps il doit être très rigide s'il doit supporter notre corps. C'est vraiment le modèle rêvé, le truc qui s'organise tout seul. Simplement, comment et pourquoi s'organise-t-il tout seul? Eh bien parce que il y a quelque part de l'information dans le système. Et cette information, c'est le génome, et via les cellules, la matière s'organise. On ne peut pas aujourd'hui raisonnablement penser à faire la même chose. Donc on est nécessairement plus modeste, mais peut-être pas au point d'abandonner l'idée. Et on en arrive à se dire que Après tout, les chimistes n'ont certainement pas jusqu'ici utilisé tous les paramètres à leur disposition pour contrôler ce qui se passe dans un réacteur. Il ne suffit peut-être pas de contrôler la concentration des espèces, le fait qu'elles se mélangent bien, la température, et d'attendre que ça se passe. Il y a peut-être des choses à faire en plus. Par exemple, on pourrait jouer sur des flux. L'avantage du flux, c'est que ça peut faire des tourbillons. Le tourbillon, c'est déjà des formes. Ces formes-là, on pourrait espérer les stabiliser et avoir donc un solide qui s'organise tout seul. On peut concevoir des gradients de concentration, des gradients de température. Et dans les gradients aussi, des systèmes diffusent et des motifs se développent. On peut peut-être agir sur des forces extérieures. Tous les systèmes sont un peu polaires, ont une certaine polarisabilité électrique, et donc sous l'action d'un champ électrique, on va favoriser telle ou telle orientation. Certains systèmes sont magnétiques. Un champ magnétique va peut-être pouvoir les organiser. Donc en jouant sur le monde extérieur au réacteur, on va peut-être arriver à organiser la matière, des cisaillements mécaniques, etc. Alors je vais juste donner deux exemples, puisque je vois que le temps passe. Le premier, c'est la silice mésoporeuse, donc quelque chose qui s'est développé en flèche. C'est tellement beau, finalement, que presque tous les chimistes du solide au monde ont voulu en faire, après que le matériau ait été découvert par des chercheurs de Mobile, qui cherchaient à élaborer un nouveau catalyseur au début des années 80. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien, parce qu'il prend des notions bien établies de deux mondes complètement différents. Le monde de la physico-chimie des émulsions d'un côté, donc plutôt du physico-chimiste et des milieux, disons, plutôt organiques, et puis les gens de la chimie des sols gels de l'autre. Les sols gels, c'est une autre façon de faire du verre, mais qui passe par des basses températures plutôt que par les hautes températures pour le procédé verrier normal. Et la physico-chimie des émulsions nous dit, et ça c'est de la thermodynamique bien établie, avec des diagrammes de phase comme ceux-là connus depuis longtemps, que dans un système où il y a de l'eau, de l'huile, et puis des tensioactifs en présence, tensioactifs c'est des savons, eh bien, il existe une richesse incroyable de phases différentes. C'est-à-dire que les tensioactifs s'organisent pour séparer l'huile et l'eau, mais s'organisent suivant des surfaces qui peuvent être très complexes, qui sont souvent très esthétiques d'ailleurs, qui peuvent être des cylindres organisés de façon compacte ici, ou des lamelles, ou des petites boules, ou ces structures cubiques ici, mais avec toujours la notion d'un intérieur et d'un extérieur. Et à l'intérieur, il y a de l'huile, à l'extérieur, il y a l'eau, ou vice-versa. Donc ça, c'était connu des physico-chimistes depuis longtemps. Par ailleurs, des chimistes travaillaient sur les procédés sol-gel. Les procédés sol-gel, bon, cette réaction est trop compliquée pour être commentée, mais ça consiste tout simplement à prendre des précurseurs, ce qu'on appelle des précurseurs de silice. Et c'est, disons, une molécule élémentaire de silice en solution dans de l'eau. Et si on mélange comme il faut, si on monte un tout petit peu la température, on met un petit peu de catalyseur, eh bien, ces molécules s'assemblent et reconstruisent de la silice massive, tout à fait analogue à la silice qu'on obtient par les voies à haute température. Eh bien, l'idée toute simple, c'est plutôt que de prendre vraiment de l'eau ici, je prends de l'eau avec ces fameux précurseurs de silice sol-gel, et puis je vais fabriquer un solide qui aura ces mêmes formes, celles qui sont là. Et c'est effectivement ce qui se produit. Donc voici l'étape un petit peu résumée. J'ai choisi ici en haut le cas de ces cylindres de micelles, on appelle ça des micelles, c'est des organisations de tensioactifs. Dans un premier temps, c'est en suspension. On ajoute autour on dissout dans l'eau ces précurseurs de silice. On crée les conditions de la chimie des sols gel pour que ça devienne un solide. Et résultat, on se trouve avec un solide qui a à l'intérieur l'empreinte géométrique parfaite de ces cylindres tous alignés, organisés de façon parfaitement hexagonale. Ensuite, il suffit de chauffer ou d'extraire, pour calciner ou d'extraire par un solvant, les tensioactifs qui sont à l'intérieur, et on se trouve avec un solide dit mésoporeux. La dimension, c'est quelques nanomètres, mais on peut aller à 10 nanomètres sans difficulté. Ça, c'est le principe, ça, c'est la réalisation, ça marche parfaitement, et c'est finalement un cristal de trous organisés, de trous cylindriques, tous parallèles les uns aux autres, mais c'est un cristal en ce sens que c'est parfaitement organisé. Donc on a réussi là, partant, on a réussi finalement à franchir l'échelle moléculaire, qui est l'échelle traditionnelle de la chimie. Je n'ai pas le temps soit de parler de chimie supramoléculaire, qui est une autre façon de s'engager dans la démarche. Mais on a franchi une échelle, on est arrivé à 1 10 nanomètres. Il se trouve que, et ça a été découvert par hasard, que des fois dans le fond des béchères qui servent à faire ça, on trouve de ces objets là très 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 jolis, qui sont faits exactement du matériau que je viens de vous présenter, c'est-à-dire ces cylindres, cette silice mésoporeuse. Et ça, ce n'est pas très étonnant, parce que quand on a fait un peu de croissance cristalline, on reconnaît là des formes. C'est un mécanisme de croissance cristalline. Et ce n'est pas étonnant. Ce matériau, j'ai dit, c'est un cristal de trou. Et ce cristal, il faut bien qu'il pousse. Et on sait, il y a toute une base conceptuelle pour ça, que c'est autour de défauts, parce qu'il y a toujours des défauts, que les croissances s'organisent, et souvent on a des systèmes qui démarrent en escargot, comme ça. Dans la nature, des fois on trouve des cristaux, où on voit très bien l'endroit à partir duquel ils se sont développés. Toujours est-il que, et là on a franchi encore une ou deux échelles de taille, on est arrivé à 10 microns. Je ne sais évidemment pas si un jour on saura quoi faire de ça, je ne sais pas non plus, mais on commence à avoir la réponse. Si on pourra suffisamment bien contrôler ce qui s'est passé dans le réacteur pour que cette forme, disons la deuxième, plutôt que la troisième, se soit développée à cet endroit-là, mais il y a bien une raison. Et cette raison-là, elle est sans doute liée à des gradients, des flux, des actions éventuellement de champs extérieurs dont je parlais tout à l'heure. Alors, je passe là-dessus, parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Je termine par ce qui est peut-être un vrai exemple de biomimétisme. J'ai utilisé ce mot biomimétisme une fois ou deux. C'est ce qu'on appelle le vitrage nénuphar. Alors, je vous ai quitté sur ce sujet-là avec cette idée forte, définitive, qu'il était impossible pour une surface solide de manifester un angle de contact par l'eau supérieur à 125 degrés. Or, assez fréquemment, quand on se promène dans la nature, après qu'il ait plu ou le matin à la rosée, on tombe sur des situations comme celle-là. Ça, c'est une feuille de lotus. Et vous voyez que l'angle de contact est bien supérieur à 125 degrés, il est d'au moins 160 degrés. Et de fait, l'eau ne reste absolument pas sur un système comme ça. Elle coule à la moindre pente. Il y a des nénuphars qui manifestent le même effet. Certaines feuilles de tulipe, des feuilles de rosier, des feuilles de symphorine, je n'ai jamais vu de la symphorine, mais ça manifeste les mêmes phénomènes. Et donc, il y a une contradiction profonde à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est impossible d'aller au-delà de 125 degrés. En fait, comme tout paradoxe, la réponse est dans le fait que le problème est mal posé. C'est vrai que ça ne peut pas être au-delà de 125 degrés pour une surface lisse, vraiment plane. Mais justement, si on observe au microscope électronique ces feuilles de végétaux présentant ces comportements, eh bien on se rend compte qu'elles sont toutes sauf idéalement planes. Elles ne sont en fait constituées que de petits picots comme cela, qui ont des dimensions de l'ordre de 10 microns, si bien que la goutte d'eau ne touche pas vraiment la surface géométrique ou la surface apparente. Elle touche l'extrémité supérieure de ces picots. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les matériaux qui nous intéressent, c'est-à-dire sur le verre, en l'occurrence, pour avoir un vitrage réellement qui permettra de rouler sous la pluie sans essuie-glace cette fois-ci. Avec une petite difficulté, néanmoins, c'est que, vous vous souvenez, la barrière de la longueur d'onde de la lumière, on est là, dans le cas d'une nénuphare, à 10 microns. Autrement dit, au travers d'une surface de verre qui serait texturée de cette façon-là, on ne verrait pas, ça diffuserait la lumière comme du verre dépoli. Il faut donc réaliser la même chose, mais à échelle inférieure à cette longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire à des échelles de l'ordre de 100 nanomètres. Et c'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait au laboratoire. Il y a encore des petits problèmes à régler. Et moyennant quoi, si on pose une goutte d'eau, eh bien, on a reproduit parfaitement l'effet nénuphar. Bien, je vais m'arrêter là, en remerciant de votre patience, avec ces quelques mots de conclusion qu'il ne faut que reprendre des phrases que j'ai déjà dites. C'est-à-dire qu'on constate en ce moment, phénomène relativement récent, disons quelques années, une dizaine d'années, l'émergence de ce qu'on peut appeler une nano-science des matériaux, et que cette émergence, eh bien, d'une part, elle répond aux demandes des développements des nanotechnologies, qui, comme toute technologie, les nanotechnologies ont des demandes en termes de matériaux spécifiques. Et nanotechnologie, je crois que ça veut dire électronique, informatique, télécom et puis biotechnologie principalement. Mais qu'en même temps, cette nano-science des matériaux, elle correspond à une mutation scientifique et technologique globale. J'ai parler beaucoup de biologie. C'est pas une des sciences traditionnelles en sciences des matériaux, qui en principe se cantonne à la chimie, la physique et puis la mécanique. Et je suis convaincu que nous sommes en train de vivre une mutation sur ce domaine-là, qui se traduit de façon ici un peu ponctuelle par le mélange de disciplines et qui jusqu'à présent avait peu de points communs, mais qui certainement est beaucoup plus globale que ça. Et puis enfin, que cette nanoscience des matériaux, eh bien, il ne faut certainement pas oublier qu'elle est fondée sur les connaissances fondamentales en physique, en chimie des solides, les deux s'étant essentiellement accumulés au cours du XXe siècle. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Oui, je m'excuse de faire un petit commentaire à cet exposé très intéressant que vous venez de faire, mais vous l'avez d'ailleurs mis en relief par votre dernier point, c'est l'émergence de l'intérêt de la biologie dans tous ces problèmes de nanotechnologie. Vous l'avez souligné, et je dirais que c'est un intérêt de voir que la biologie, finalement, réalise un miracle par rapport à tous les efforts que vous faites dans... par exemple, vous avez détaillé les problèmes d'intégration qu'il faudrait résoudre pour obtenir quelque chose de fonctionnel. On s'aperçoit de plus en plus que la biologie réalise précisément cette intégration, cette fonctionnalité à des échelles très petites. On a par exemple des micromoteurs de l'ordre du nanomètre qui tournent à 150 tours à la seconde, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je dirais, ayant assisté un peu à tous ces exposés sur la nanotechnologie, eh bien, je m'aperçois que tout le monde se focalise sur ce miracle de la biologie. Voilà le commentaire que je voulais faire.
C'est un commentaire, donc ça n'appelle pas nécessairement de réponse. Néanmoins, ce que je voudrais peut-être vous dire, c'est que... Je crois que la biologie a toujours fasciné les physiciens. Et même plus précisément encore que ça, la molécule d'ADN, la double hélice, est un objet de fantasme pour les physiciens. C'est bien qu'il en soit ainsi, mais je crois que c'est bien aussi d'en avoir conscience, à tel point que dès qu'une une idée nouvelle se manifeste, ou disons qu'une théorie nouvelle se développe en physique, il y a une espèce de tendance naturelle à vouloir l'adapter tout de suite à la double hélice d'ADN, alors que des fois, ça peut strictement rien avoir à faire. Alors qu'il peut, la plupart du temps, n'avoir strictement aucune relation entre les deux. Donc, il y a, c'est certain, cette fascination de la biologie pour les physiciens. Je pense néanmoins que ce dont nous parlons avec ces sessions sur les nanotechnologies, nous allons au-delà du simple fantasme. Il y a vraiment des systèmes biologiques, ceux que vous avez mentionnés, les moteurs flagellaires ou d'autres. Il y a des façons de s'en sortir de la nature, et en particulier du vivant, qui peuvent vraiment donner des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le chemin s'est inversé par rapport à la situation peut-être d'une génération précédente, où on avait peut-être tendance à voir la relation entre la physique et la biologie dans un sens. C'est-à-dire les physiciens ont compris des choses et ils vont l'appliquer à la biologie, alors que maintenant, on est peut-être dans le cheminement inverse. C'est-à-dire les biologistes ont compris des choses et nous présentent des objets, des solutions. Essayons, physiciens, de les comprendre et éventuellement de les mimer.
Je voulais savoir quel était le temps, le temps qu'il fallait entre la recherche fondamentale dans les laboratoires et une implication, disons, commerciale ou en tout cas dans la vie de tous les jours.
Quand il s'agit de quelque chose de véritablement nouveau. Je ne parle pas du tout venant de la recherche industrielle qui est d'améliorer, de diversifier un peu les gammes, mais quand vraiment il s'agit de rupture, c'est nécessairement à l'échelle au moins de 10 ans. Prenons un exemple, ce vitrage électrochrome que j'ai présenté, c'est un sujet de recherche qui a commencé chez Saint-Gobain en 1984. En principe, on devrait vendre le premier En fait, le produit sera un toit automobile électrochrome au deuxième semestre de cette année. 18 ans. Mais il s'agissait d'une vraie rupture. C'est un concept à assimiler complètement qui est de la matière inerte à la matière adaptative. Donc l'ordre de grandeur, disons, c'est 10 ans.
Je voudrais savoir à quoi correspond la partie imaginaire d'un indice optique. Parce que c'est une question un peu en dehors, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Je pensais que les indices, c'était uniquement des nombres réels.
Ah ouais. Non. Alors, la confusion vient de ce que, pour ce qu'on appelle traditionnellement les matériaux optiques, c'est-à-dire ceux dont on fait des lentilles ou des prismes, etc., eh bien, la partie imaginaire est tellement petite qu'on peut l'oublier. Et du coup, ça leur confère cette propriété qui est de transmettre la lumière. Cette partie imaginaire, au contraire, est là pour prendre en compte les phénomènes d'absorption et un peu plus compliqué que ça, de réflexion. Autrement dit, dans le cas d'un verre, d'un cristal de quartz, d'une topaze, on peut quasiment l'oublier. Pour la topaze, j'ai en partie tort, puisque ça dépend à quelle longueur d'onde on se place. Dans le cas d'un métal, au contraire, la partie réelle, N, n'a presque plus d'intérêt. Ce qui vraiment prend le pas et domine, c'est la partie imaginaire qui explique la réflexion de la lumière par les surfaces métalliques. Les choses sont évidemment un petit peu plus compliquées que cela, mais en gros, la réponse est celle-là. Et la raison pour laquelle très souvent on ne parle pas de l'indice imaginaire, eh bien, c'est qu'on a affaire à des matériaux dits pour l'optique, c'est-à-dire transparents, non réfléchissants.
Vous avez souligné à travers votre exposé l'importance de l'interdisciplinarité. Et est-ce qu'elle est suffisante de nos jours ? Y a-t-il un cloisonnement important entre les laboratoires ou... Où en est l'interdisciplinarité
entre disciplines. Bon, c'est évidemment l'objet d'un débat interminable. Je pense néanmoins que les choses évoluent dans le bon sens. Les frontières entre disciplines restent encore très difficiles à franchir. Il y a des initiatives qui se prennent, qui se pratiquent dans certains endroits. Pas nécessairement des initiatives d'État, hein. Des fois ça peut être des initiatives de quelques individus qui ont véritablement envie de travailler ensemble. L'exemple que j'ai en tête, qui est peut-être la meilleure réalisation de cela, en tout cas dans les domaines dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est un laboratoire à l'Université de Santa Barbara, où vraiment travaillent ensemble des physiciens, des chimistes, des mécaniciens, des biologistes. Et quand je dis des biologistes, ce n'est pas des biologistes, disons, de biologie structurale, qui par culture sont assez proches des physiciens et des chimistes, ce sont des généticiens. Et tout ce beau monde a travaillé pendant une dizaine d'années et a fini par comprendre en détail comment se fabriquent, quels sont donc les mécanismes de biomiralisation et les aspects topologiques de fabrication des coquilles d'ormeaux, qui sont elles aussi très difficiles à casser. L'ormeau est encore un peu plus courant que le Strombus gigas que j'ai montré tout à l'heure, bien qu'on en trouve quand même de moins en moins. Et la structure est très particulière, a longtemps servi et continue à servir de modèle de structure en lamelles qu'il est justement intelligent de chercher à mimer pour concevoir des blindages, par exemple des blindages pour l'armée ou des gilets pare-balles ou des choses comme ça. Et donc c'est par ce travail en commun de généticiens, de chimistes, de biologistes que ça a marché. Et je pense vraiment que c'est un cas de figure où on peut dire que si ces gens-là n'avaient pas travaillé ensemble, ça n'aurait certainement pas pu déboucher. Bon, pour revenir à votre question dans toute sa généralité, je crois que ça ne choque malheureusement personne dans les organisations publiques de recherche quand on dit que la pluridisciplinarité reste encore à construire. Dans un organisme comme le CNRS, il y a des départements scientifiques qui sont organisés par discipline, chimie, mécanique, enfin ça ne s'appelle pas mécanique, ça s'appelle sciences pour l'ingénieur, physique, biologie, ça s'appelle sciences du vivant, et au bout du compte, très peu de communication. Il y a eu des initiatives, comme je l'ai dit, en particulier des sections, ce sont ces commissions qui sont chargées justement de faire vivre la discipline et puis d'évaluer les chercheurs. Certaines ont été créées justement à cheval entre disciplines, entre la physique et la chimie. Une autre entre la physique et la biologie. Donc ça, certainement dans le bon sens, il faut encourager ça, mais ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps à se faire.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées sur la méthode d'obtention du vitrage nénuphar, s'il vous plaît? Merci.
Oui. Alors, je l'avais prévu, et puis c'était pour gagner du temps, que je n'ai pas présenté. Alors, c'est un exemple de nanotechnologie à très grande échelle. Et c'est également un exemple d'auto-organisation. Modeste, mais néanmoins, l'idée est là. Alors pourquoi auto-organisation? Parce que la première façon qui vient à l'idée pour réaliser cet objet sur votre gauche, c'est de dire on va faire comme en microélectronique, on va déposer une couche d'oxyde par-dessus le vitrage, par exemple, et puis on va utiliser des méthodes de photolithographie par une succession d'insolations, d'attaques chimiques qui vont révéler les reliefs, et puis on va finir par creuser ce motif. Ça marcherait sans aucun doute. Ça produirait des choses plus régulières que ça. Peut-être on pourrait avoir le choix entre un vitrage nénuphar, un motif triangulaire ou un motif rectangulaire, ou je ne sais pas quoi encore. Mais ce qui est certain, c'est que ça coûterait horriblement cher. Et ce qui est possible pour la microélectronique, parce que, in fine, le produit que vend l'usine ou le fabricant de microélectronique, c'est une petite puce d'à peine 1 cm², n'est pas possible pour le verrier qui, lui, vend un pare-brise qui, en moyenne, aujourd'hui, fait 1,4 m². Donc, le facteur d'échelle sera absolument épouvantable, on ne pourrait absolument pas le supporter. Il a fallu trouver quelque chose qui se fasse tout seul, donc de l'auto-organisation. Et la façon dont nous procédons, c'est de se déposer une couche mince, polymère par exemple, couche très mince, et j'ai beaucoup parlé de couche, donc vous avez certainement compris que c'est une technologie qui est très très importante dans le domaine des vitrages aujourd'hui. On dépose une couche mince, mais d'un polymère qui est choisi justement pour ne pas bien adhérer à la surface du verre. Et même qui spontanément aurait tendance à démouiller, pour reprendre, à non mouiller, pour reprendre des mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Mais en fait, on se place juste à une condition un peu critique où il accepte de s'étaler sous forme d'une couche de 100 nanomètres, 10-100 nanomètres d'épaisseur, mais à peine. Et par le jeu d'une perturbation extérieure, et là ça se fait en montant, en chauffant, par le jeu de la température, eh bien on provoque les conditions de démouillage. C'est bien qu'il faut imaginer ce film parfaitement continu qui tout d'un coup démouille et forme plein de petites gouttelettes. Et ces gouttelettes-là, elles ont le bon goût, enfin, on a travaillé pour qu'elles aient les dimensions voulues, c'est-à-dire environ une centaine de nanomètres. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on a le masque. Le masque que nous aurait fourni la photolithographie, il s'est fait tout seul. Et après, c'est très facile, par une succession d'attaques ioniques, d'attaques chimiques, qui sont des procédés qui ne coûtent pas cher du tout, de réaliser l'objet, ensuite d'ôter le masque par attaque chimique, et on se retrouve avec la forme voulue. Il faut évidemment à la fin greffer ces fameuses molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, sinon l'effet ne se manifesterait pas.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez parlé de... Alors excusez-moi, j'ai eu du mal à noter l'endroit. Les morphogénèses.
Oui.
Vous avez parlé de l'importance de l'ADN dans le développement de ces morphogénèses. Est-ce que, à travers les évolutions qu'on voit dans l'ADN actuellement...
Pardon.
Est-ce que, à travers les évolutions qu'on voit sur le déchiffrage du génome actuellement,
oui,
on pourrait envisager quelque chose en morphogénèse dont on dirigerait la structure, la forme, à l'échelle, comme vous l'avez montré, du micron, voire peut-être du centimètre?
Oui, je crois voir le sens de votre question, mais... Ce n'est ce n'est pas l'ADN, la brique de construction élémentaire dans tous ces objets. L'ADN est là pour porter le génome qui va faire que le système se reproduit, d'une part, et ensuite, par le jeu de cellules qui sont très spécifiques et dont la fabrication elle-même est contrôlée par le génome, mais qui sont très spécifiques, vont venir organiser la matière. Peut-être j'ai mal compris votre question, mais ce n'est pas la forme géométrique de l'ADN qui conditionne la forme de l'objet final. Il y a entre les deux cette espèce, disons, de réacteur, pour employer un mot que j'ai employé, qui a les instructions pour fabriquer ce qu'il doit faire, c'est-à-dire une fibre en enroulant plusieurs filaments les uns autour des autres, ou bien, dans le cas de la biominéralisation, des protéines très spécifiques sur lesquelles vont venir s'agglutiner les ions présents dans le milieu. C'est le cas que j'évoque, par exemple, est celui de la biominéralisation en milieu marin, qui peut conduire à de la silice ou à du carbonate de chaux, de carbonate de calcium. C'est-à-dire les protéines sont là pour faire le travail. Elles ont les sites spécifiques où les ions en question vont être pompés dans le milieu extérieur, vont venir réagir, et puis éventuellement, ils vont transporter un petit peu plus loin sur l'édifice ce qu'elles ont fabriqué. Mais encore une fois, ce n'est pas la forme de l'ADN qui va changer. Alors, votre question, finalement, si je comprends bien, reviendra à dire, est-ce qu'on peut imaginer une autre forme de vie qui, elle-même, sera capable de produire d'autres formes tout court ?
Eh bien, Hervé Haribard, merci beaucoup.
Merci beaucoup.